Alberto habitait dans une sorte de loft avec des murs mansardés. Dans le toit, on avait pratiqué une ouverture qui laissait entrer la lumière crue du ciel. La pièce avait aussi une fenêtre qui donnait sur la rue, laissant le regard se perdre loin au-delà des vieilles demeures. Le plus surprenant restait toutefois la manière dont était meublée cette grande pièce. C'était un vrai capharnaüm de meubles et d'objets de toutes les époques. Il y avait un canapé, probablement des années 30. Un vieux secrétaire de la fin du 19e et un fauteuil qui devait bien dater de plusieurs siècles. Sur les étagères et les armoires s'amoncelaient des quantités de bibelots perdus au beau milieu d'objets d'utilité courante. Il y avait des montres, des brocs, des mortiers, des cornues, des couteaux, des poupées, des plumes d'oie, des presse-livres, des octants, des sextants, des compas et des baromètres anciens. Tout un mur était tapissé de livres, mais ce n'était pas le genre de livres qu'on trouve en librairie. La bibliothèque abritait une vraie collection de bibliophiles. Au mur étaient accrochés des dessins et des tableaux, certains plutôt récents, d'autres très anciens. On y voyait aussi affichées plusieurs vieilles cartes de géographie plus qu'approximatives. Sophie restait là, médusée. Elle tournait la tête de gauche à droite pour examiner les moindres recoins de la pièce. « Tu collectionnes toutes ces vieilleries ?» finit-elle par dire. « Si l'on veut. Mais songe à tous les siècles d'histoire présents dans cette pièce. Moi, je n'appellerai pas cela des vieilleries. Tu tiens un magasin d'antiquités ou quelque chose dans ce genre ?» Une ombre de mélancolie passa sur le visage d'Alberto. Tout le monde ne saurait se laisser emporter dans le fleuve de l'histoire, Sophie. Il faut bien que certains s'arrêtent et ramassent ce qui reste sur les berges du fleuve. C'est une drôle de façon de voir les choses. Mais c'est vrai, mon enfant. Nous ne vivons pas seulement à notre époque. Nous portons toute notre histoire avec nous. Rappelle-toi que tout ce qui est ici, dans cette pièce, a été un jour flambant neuf. Cette pitoyable poupée en bois du 15e fut peut-être fabriquée pour les 5 ans d'une petite fille, par son vieux grand-père peut-être. Puis, elle eut 10 ans, Sophie. Elle devint adulte et se maria. Peut-être eut-elle, elle aussi, une fille à qui elle donna la poupée à son tour. Elle vieillit et un jour mourut. Elle avait pourtant vécu objectivement une longue vie, mais elle finit quand même par mourir et elle ne reviendra jamais. Au fond, elle ne fit qu'une courte visite sur Terre. Mais sa poupée, eh bien, elle est encore là sur l'étagère. Tout devient si déprimant et dramatique quand tu présentes les choses sous cet angle. Mais la vie est à la fois déprimante et dramatique. On nous laisse pénétrer dans un monde merveilleux, nous rencontrer, nous saluer, même faire un bout de chemin ensemble. Puis, nous nous perdons de vue et disparaissons aussi brusquement que nous sommes venus la première fois. Je peux te poser une question? Nous ne jouons plus à cache-cache, à ce qu'il me semble. Pourquoi t'étais-tu installé dans le chalet du major? C'était pour que nous ne soyons pas trop éloignés l'un de l'autre, puisque nous communiquions seulement par lettres. Je savais que plus personne n'y habitait depuis longtemps. Alors tu as décidé de t'y installer? Oui, je m'y suis installé. Alors comment se fait-il que le père de Hilde soit au courant? Il sait pratiquement tout, si je ne me trompe. De toute façon, je ne comprends pas comment on obtient du facteur qu'il délivre du courrier en pleine forêt. Alberto eut un sourire de satisfaction. « Oh, ce genre de chose est une bagatelle pour le père de Hilde. Un banal truc de prestidigitateur, un vulgaire tour de passe-passe. Nous sommes peut-être les personnes les plus surveillées du monde. » Sophie se sentit gagnée par l'indignation. « Si jamais je le rencontre, je lui arrache les yeux !» Alberto alla s'asseoir sur le canapé. Sophie le suivit et choisit un fauteuil bien confortable. Seule la philosophie peut nous rapprocher du père de Hilde, dit-il enfin. Aujourd'hui, je vais te parler de la Renaissance. D'accord.
Quelques années après Saint Thomas d'Aquin,
la grande culture chrétienne se lézarda. La philosophie et la science se détachèrent progressivement de la théologie de l'Église. Mais cela eut aussi pour conséquence que la vie religieuse eut un rapport plus libre avec la raison. De plus en plus de personnes mirent l'accent sur l'impossibilité d'approcher Dieu par la raison, car Dieu est par nature inconcevable pour l'esprit. Le plus important pour l'être humain n'est pas de comprendre le mystère divin, mais de se soumettre à la volonté de Dieu. Je comprends. La vie religieuse, faisant enfin bon ménage avec la science, on vit l'avènement d'une nouvelle méthode scientifique et d'une nouvelle conviction religieuse qui permirent les deux grands bouleversements du XIVe et du XVe siècle, à savoir la Renaissance et la Réforme. Prenons une chose à la fois. La Renaissance est un grand mouvement de renouveau culturel à la fin du XIVe siècle. Elle vit le jour en Italie du Nord, mais s'étendit rapidement durant le XVe et le XVIe siècle. Est-ce que tu n'as pas dit une fois que le mot « renaissance » signifie « naître une deuxième fois » Très juste. Et ce qui devait renaître, c'était l'art et la culture de l'Antiquité. Nous avons un autre terme aussi, celui d'humanisme. Parce que, de nouveau, on partait de l'homme, alors que le Moyen-Âge avait considéré chaque action et chaque vie à la lumière de Dieu. Revenir aux sources, c'est-à-dire revenir à l'humanisme de l'Antiquité, devint le mot d'ordre. On assista, pour ainsi dire, à un nouveau sport national, celui de déterrer de vieilles sculptures et des inscriptions antiques. Apprendre le grec redevint aussi à la mode, ainsi que les études sur la culture grecque. Étudier l'humanisme grec avait, détail non négligeable, un but pédagogique, car la connaissance des langues anciennes donnait une culture classique et développait ce qu'on appelle communément les qualités humaines. « On met au monde les chevaux », avait-on coutume de rappeler. Mais on ne met pas au monde les hommes. On les éduque pour qu'ils le deviennent. « Tu veux dire que c'est par l'éducation qu'on devient homme ?» Oui, en gros, c'est ça. Mais avant d'examiner de plus près les idées de l'humanisme de la Renaissance, nous allons dire quelques mots sur son arrière-plan politique et culturel. Alberto se leva et se mit à arpenter la pièce. Il finit par s'arrêter et montra du doigt un très vieil instrument posé sur une des étagères. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il. « On dirait une vieille boussole. » « Tout juste. » À présent, il montrait du doigt un vieux fusil accroché au-dessus du canapé. « Et ça ? » ?»«
Un ancien fusil ? » ?»«
Bon. » »« Et ça ? » Alberto prit un livre de la bibliothèque.
« Eh bien, ça, c'est un vieux livre. » »«
Disons, pour être plus précis, que c'est un incunable. » »«
Un incunable ?»
En fait, cela veut dire « berceau ». On emploie ce terme à propos de livres qui furent imprimés à l'époque qui marque l'enfance de l'imprimerie, c'est-à-dire avant le XVe siècle.
Il est vraiment si vieux que ça ?
Oui, aussi vieux que ça. Ces trois inventions que je t'ai montrées, la boussole, la poudre et l'imprimerie, vont jeter les bases de cette nouvelle époque que nous appelons la Renaissance.
Attends, je n'ai pas bien compris.
La boussole facilita la navigation. En d'autres termes, elle est en partie à la base des grandes découvertes. De même, dans une certaine mesure, la poudre. Les nouvelles armes rendirent les Européens mieux armés, comparés aux cultures américaines et asiatiques. Et en Europe aussi, la poudre joua un grand rôle. Quant à l'imprimerie, elle permit de répandre les nouvelles idées des humanistes de la Renaissance, contribuant de manière fort active à faire perdre à l'Église son vieux monopole de détenteur du savoir. Par la suite, on inventa de nouveaux instruments et de nouveaux outils à tour de bras. Le télescope fut, par exemple, un instrument d'une extrême importance, puisque grâce à lui, l'astronomie connut un essor incomparable. Et pour finir, on inventa les fusées et les navettes spatiales pour atterrir sur la Lune ? Non, là tu brûles les étapes. Cela dit, la Renaissance marqua le début d'un processus qui aboutit à ce que des hommes marchent sur la Lune. Ou, d'un autre point de vue, à Hiroshima et Tchernobyl, Tout commença par une série de transformations sur le plan culturel et économique, et principalement le passage d'une économie familiale à une économie monétaire. Vers la fin du Moyen Âge, des villes s'étaient développées avec une main-d'œuvre énergique, un commerce de nouvelles marchandises et une économie fondée sur la banque et la libre circulation de l'argent. On assista à la formation d'une bourgeoisie qui s'était, dans une large mesure, libérée des contingences de la nature grâce à son travail. Tout ce qui était nécessaire pour vivre pouvait être acheté contre de l'argent. Cela encouragea le travail bien fait, l'imagination et la création. L'homme, en tant qu'individu, dut relever de nouveaux défis.
Cela rappelle un peu comment se sont formées les cités grecques il y a 2000 ans.
Oui, c'est une bonne remarque. Je t'ai raconté comment la philosophie grecque s'était détachée d'une conception mythique du monde qui était liée à une culture paysanne. De la même manière, les bourgeois de la Renaissance ont commencé à se libérer des seigneurs féodaux et de l'hégémonie de l'Église. Dans le même temps, la culture grecque fut redécouverte grâce à des contacts plus étroits avec les Arabes en Espagne et la culture byzantine dans l'est de l'Europe.
Les trois fleuves de l'Antiquité se sont à nouveau fondus dans un même courant?
Je vois que tu apprends bien tes leçons. Bon, voilà grosso modo le contexte de la Renaissance. Parlons à présent des nouvelles idées.
Dépêche-toi car il faut que je sois rentré pour déjeuner.